L'ennemi est nulle part, il est partout. Nous nous tenons toujours en alerte, régulièrement sur les checkpoints. Il y a beaucoup de trafic dans ce pays. Les grands axes sont constamment embouteillés. Il faut être très vigilant, rester sur ses gardes, le doigt crispé sur la gâchette. Le danger peut surgir à tout moment et sous des formes que l'on ne peut jamais prévoir. Le chargement de tout véhicule, 2 et 4 roues, camion, vélo, charrette, doit être ouvert et étalé sur la route par son propriétaire que nous tenons dans la ligne de mire à distance. Nous ne prenons aucun risque. Par exemple, nous limitons les fouilles au corps, sauf cas très particuliers, en raison des risques potentiels d'attentats suicides. Nous obligeons parfois les gens à se dévêtir au milieu de la route, à distance respectable. Un geste brusque, suspect, hostile, un comportement douteux. Tirons sans sommation. Un employé de bureau partant à son travail peut cacher un rebelle. Un paysan poussant sa charrette et peut-être un kamikaze. Tout véhicule qui ne s'arrête pas assez vite immédiatement neutralise. Nous ne laissons rien au hasard. La règle numéro 1 consiste à ne faire prendre aucun risque à nous. La règle numéro 2 à ne faire confiance à personne et à ne se fier à aucun comportement amical. La numéro 3 à s'approcher le moins possible des véhicules. La numéro 4 à tirer en cas de situation jugée anormale. Quand l'un de nos gars se fait accrocher, nous finissons toujours par réagir d'une manière ou d'une autre. Pas vraiment de la vengeance. Plutôt un défoulement. Dans des mondes pareils, instantanément des dents de fauve dans la tête. Toute cette sauvagerie qui remonte alors à la surface avec une facilité, une rapidité effrayante, comme une purge. La préparation militaire nous a comme qui dirait greffé des petits pains de plastique dans les neurones. La moindre étincelle fait tout péter. Je n'étais pas comme ça avant. Deux gars des troupes aéroportées ont été pris en embuscade avant-hier dans les faubourgs ouest. Ils sont morts et leurs corps gisant au milieu de la rue, en plein soleil, ont pu être récupérés avant 2 bonnes heures. Il y avait déjà des mouches. Nous avons été appelés sur les lieux en mission de protection rapprochée des équipes de secours. Les deux gars ont été tirés comme des lapins, par derrière, à l'arme automatique. Et ils sont allongés, face contre terre, quasiment côte à côte. L'un d'eux s'est pris une rafale dans la nuque qui a fait éclater le cou. Il y a du sang partout. Un sang noir qui sèche en grandes flaques sur le sable, comme des taches de cambouis. Nous avons sécurisé la zone avec beaucoup de précautions parce que les snipers étaient encore dans les parages. Ils venaient de tirer sur les secours sans atteindre personne. Rien ne bougeait. Nous avons pris à revers le pâté de maison d'où partaient les coups et n'avons eu aucun mal à neutraliser les tireurs. Nombre de 4. Des terroristes armés de vieilles calaches. L'un d'eux a réussi à prendre la fuite, mais nous l'avons serré dans une petite cour. Il a jeté son arme, a levé les bras en criant et nous avons vidé nos chargeurs. Son corps sautait sous l'impact des balles, il faisait gicler des gerbes de sang. On ne se fait jamais tout à fait à ce genre de choses. En une fraction de seconde, la tension est à la limite du supportable. Les nerfs sont chauffés à blanc. Il y a beaucoup de poussière, de la fumée partout. C'est irrespirable et l'on n'y voit rien. Nous fouillons la maison de fond en comble, en faisant sauter les portes à coups de pied de grosse. On tire un peu à l'aveuglette. Il fait son. Des rafales dans toutes les directions. Avant d'investir une pièce, nous y balançons une grenade pour la nettoyer. Dans la précipitation, nous avons abattu une vieille femme et son mari que des gars avaient fait allonger sur le sol, main sur la tête, juste avant que nous ne pénétrions dans la pièce. Nous avons découvert une très jeune fille, terrorisée, blottie sous un canapé, et nous l'avons sortie de là en la tirant par les cheveux avant de ligoter les poignets derrière. Nous lui avons enfilé une cagoule sur la tête, de la charger sur un véhicule léger avec d'autres suspects. Ramassé dans le coin. La télé marchait encore et j'ai lâché une rafale dans l'écran. Dans des moments pareils, ma vie n'a aucun sens. Celle des autres, aucune valeur. La peur panique de mourir se mêle à la peur panique de tuer et au besoin sauvage d'appuyer sur la gâchette. Lorsqu'on est dans cet état-là, on fait un peu n'importe quoi. Le sergent, on l'appelle le requin, parce que c'est vraiment un prédateur. Mais le requin va rentrer au pays, l'immobilise. Il s'est engagé par conviction, comme nous tous ici, et aussi parce que le job est bien payé. Il aime l'armée, les armes, le tir, il aime l'exercice et aussi le combat. Mais surtout, il aime son pays. Il y a 12 ans qu'il est sous les drapeaux. Il a aimé ce qu'il a fait. Il a beaucoup tué. Il a le drapeau national tatoué sur l'avant-bras gauche, celui du cœur, et un cowboy aux yeux injectés de sang sur une carte à jouer, un as, sur le bras droit. Chez nous, un cowboy aux yeux injectés de sang sur une carte à jouer, un as, signifie qu'on a déjà tué quelqu'un. Donc, ça n'est pas tout à fait une info. Son tatouage, il doit l'avoir depuis des lustres. Sur la poitrine, du côté du cœur, il s'est fait tatouer un grand dragon chinois qui déchire la peau, ce qui veut dire que la douleur, c'est la faiblesse qui s'échappe du corps. Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts. L'autre soir à la télévision, il y avait un reportage sur les gars d'une section qui patrouillait sur une route à grande circulation, en plein désert, dans le sud du pays, il y a quelques semaines. Les gars ont perdu les pédales, ils ont ouvert le feu sur une voiture occupée par une famille tranquille et ont tué le grand-père. Quand ils se sont rendus compte de la connerie qu'ils venaient de faire, ils ont immédiatement aidé la famille à enterrer le grand-père au bord de la route. Tout le monde pleurait. Les gars se sont recueillis sur la tombe, casque à la main, arme au pied, avec toute la famille, et puis la voiture est repartie. Le plus fort, c'est que les gens de la famille ont, paraît-il, montré beaucoup de reconnaissance à nos gars pour l'enterrement et le respect. C'est ce qu'ils disaient à la télévision. Ce qui m'a le plus frappé ici au début, c'est la façon que nous avons tous de beaucoup parler pendant les combats. Ça n'arrête pas. Des cris, des ordres, parfois des rires, on s'avertit, on s'appelle, se chante, on se siffle, on s'engueule. C'est tout à fait irréel, vraiment bizarre, comme au cinéma, en beaucoup plus excitant. On ne voit presque jamais l'ennemi de l'autre côté de l'espace de combat, parfois très réduit, qui nous sépare. Quand on le voit, c'est encore plus déstabilisant. D'un côté, le bruit assourdissant de nos armes automatiques, tirs de bazooka, crépitement des radios. De l'autre, le sifflement des balles, léger, sans violence, très propre, presque musical parfois, et qui pourrait me renvoyer au pays ni une ni deux, avec les honneurs militaires et dans un body bag. Nous avons perdu le sens des valeurs, le sens de la réalité, le sens de ce qu'est la vie. Les critères sont des critères guerriers. Les conditions de vie au cours des missions ne sont pas comparables à celles qui nous sont offertes au camp. Pas de ventilo, pas d'eau courante, ration énergétique, sans parler des ordres qui changent toutes les demi-heures. Nous dormons plutôt mal à 8 par tente sur des petits lits de camp qui cassent le dos. Des mouches partout, des scorpions à l'appel et même pas de PQ. C'est la guerre. Avant-hier, en pleine ville, nous roulions en tête d'un convoi lourd que nous avions en mission d'escorte.